Bonjour, bienvenue dans votre quart d'heure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un avion supersonique à visée commerciale, beaucoup moins connu que le Concorde, le Tupolev 144. Dans les années 50, encouragé par les progrès de l'aviation supersonique depuis le franchissement du mur du son par Charles Jagger et son Bell X-1, c'est un petit avion ayant un moteur à fusée, américains, soviétiques, anglais et français se lancent dans une course au premier avion supersonique commercial. Dans cette course, face aux Européens, des poids lourds sont présents et avec eux des budgets très conséquents. C'est pour cette raison que les Français, avec l'entreprise Sud Aviation, qui donnera par la suite Aérospatiale puis Airbus, et les Anglais avec Bristol Aeroplane Company, décidèrent de s'unir pour créer ensemble ce qui deviendra plus tard l'Oiseau Blanc. Ils avaient créé de leur côté deux projets d'avions supersoniques. Pour les Français, c'était le Super Caravelle et pour les Anglais, c'était le Bristol 223. Lorsque l'URSS apprend l'existence d'un tel projet, elle confie au cabinet d'études Tupolev la mission de réaliser un avion de ligne supersonique meilleur que le Concorde et en moins de temps. Ce cabinet a été choisi d'une part par sa proximité avec le pouvoir, alors en la personne de Khrouchtchev, mais aussi pour son expérience supersonique dans le milieu militaire. Les ingénieurs de Tupolev se sont vite rendus compte qu'ils ne pourront pas adapter un avion militaire pour réaliser ce projet ambitieux, car les notions de rentabilité et de confort n'ont même pas été effleurées lors de la conception de leurs avions militaires. Les ailes en delta, c'est-à-dire des ailes de forme triangulaire, ont rapidement été adoptées, car étant le seul moyen pour un grand avion d'atteindre une vitesse supersonique. La vitesse supersonique correspond à une vitesse plus rapide que celle du son. Elle est donnée en Mach. Mach 1, c'est-à-dire la vitesse du son, vaut près de 1200 km par heure. En même temps, à l'autre bout de l'Europe, un autre avion arborait également des ailes delta, le Concorde. Et les similarités entre les deux aéronefs ne s'arrêtent pas là. En effet, la conception du TU-144 est due au moins partiellement à l'espionnage industriel au profit du GRU, c'est-à-dire la Direction Générale des Renseignements de l'État-Major des Forces Armées de la Fédération de Russie, les usines françaises de Sud Aviation ayant particulièrement été mises à contribution. Lorsque Sergueï Pavlov, officiellement directeur du bureau parisien d'Aéroflotte, fut finalement arrêté en 1965, il était en possession de plans détaillés des freins, du train d'atterrissage et de la cellule du Concorde. Un autre agent, Sergueï Fabiev, ingénieur russe d'origine ayant créé une entreprise florissante ayant notamment pour client la Sereb ou Dassault, était en réalité à la tête d'un réseau d'espions. Il avait réussi à ce titre à obtenir des plans sur la nature des nervures de voilure usinées en Italie par Fiat et n'a été arrêté qu'en 1973. Cet espionnage a sans doute permis aux soviétiques de comparer plus précisément les deux conceptions, mais le prototype du TU-144 de 1970 n'était pas qu'une simple copie du Concorde, et sur la base de nombreux essais, des changements considérables furent apportés entre le prototype et le modèle de pré-production, le TU-144S. Mais qu'en est-il à ce stade du projet américain ? Eh bien, en 1960, le projet commence pour de bon et le Boeing 2707, de son nom, aurait dû voler à Mach 3 et transporter 250 à 300 passagers, ce qui l'aurait rendu beaucoup plus rapide et beaucoup plus capacitaire que le Concorde. Mais le projet fut abandonné en 1971, faute d'une trop grande soif de finances, les deux prototypes américains ne furent jamais achevés. Vous aurez reconnu bien sûr le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, un compositeur russe. Mais revenons au TU-144, dont au passage le nom de code, ou le nom d'identification si vous préférez, est OTAN. Oui oui, son nom de code est le nom de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Grâce à la pression mise par les autorités russes, il fait son premier vol d'essai le 31 décembre 1968, soit quelques mois avant le Concorde. Il a donc le titre de premier avion de ligne supersonique. Mais malheureusement, cela se fera au détriment de sa qualité. Il réalisera également son premier vol supersonique le 5 juin 1969, encore une fois avant le Concorde. Mais vous l'avez compris, le but de la conception de cet avion est un but strictement politique dans cette guerre froide. Cette course s'apparentait à celle de la conquête spatiale qui battait son plein à cette époque. Mais malgré son statut de vulgaire copie du Concorde, ce qui lui a d'ailleurs valu le nom de Concordski, cet avion présente des différences notables. Par exemple, le train d'atterrissage a été très fortement renforcé pour pouvoir atterrir sur un grand nombre d'aéroports du RSS. Du fait de la mauvaise qualité des pistes et de leur potentielle longueur très fortement inférieure, il a fallu adapter les roues et les pneus. C'est pour cette raison que l'avion a une forme légèrement différente de celle du Concorde lorsque l'on l'observe au sol. Vous retrouverez bien sûr des photos sur notre site podcastlequartdheure.wordpress.com disponible en description. Et si vous les regardez ces photos, vous apercevrez des petites ailes au niveau du cockpit, des moustaches de canard comme on les appelle dans le milieu. Elles ont été rajoutées pour augmenter la portance et la maniabilité à faible vitesse. En effet, si l'avion doit se poser sur une piste plus courte, il doit forcément toucher le sol avec moins de vitesse. Le Concorde, quant à lui, avait des ailes qui pouvaient s'étendre lors des phases de décollage et d'atterrissage. Le Tupolev 144 avait lui aussi le nez qui s'abaissait pour une meilleure visibilité pour les phases citées précédemment. Le Tu-144 était également pourvu d'un parachute de frein, car une inversion de poussée n'était pas possible sur l'appareil. Une inversion de poussée sert à faire ralentir l'appareil en faisant tourner les moteurs dans l'autre sens en inversant le sens de la poussée des moteurs. Cela ne permet pas pour autant à l'avion de faire une marche arrière. Je vous rappelle qu'aucun avion ne peut réaliser de marche arrière seul, aucun avion commercial. D'un point de vue russe, tout prédestinait cet avion à un certain succès, surtout qu'il pouvait lui aussi voler plus vite et transporter plus de passagers que le Concorde. Le programme de développement du Tupolev a subi un sérieux revers le 3 juin 1973 au Salon du Bourget. Ce jour-là, lors de sa seconde démonstration en vol, après le Concorde, le premier modèle de production, le numéro 77-102, s'écrasa en flammes au-dessus de Goussainville, détruisant une quinzaine de maisons, une école et tuant les 6 membres d'équipage et 8 personnes au sol. Le dernier jour du salon, le Concorde et le Tupolev 144 étaient présentés devant un public de 350 000 personnes. Le Concorde fit une première démonstration suivie par le Tupolev. À la fin de son ascension verticale à pleine puissance, aux environs de 1200 mètres, au moment où les plans canards du fuselage avant furent rétractés, l'avion décrocha, basculant en piqué. Et lorsque le pilote tenta de le redresser, tout en redéployant les ailes de canard, l'importance facteur de charge causa la rupture de l'aile gauche. La version qui a été présentée par les autorités russes après le crash a été que le Tupolev 144 a dû faire une manœuvre d'évitement du Mirage 3 français, ce qui a mis l'avion dans une position inconfortable et le fit crasher. Des années après, une fois que la boîte noire fut mise à disposition de tous, le monde se rendit compte que la panne fut en fait causée par les paramètres de vol qui avaient été changés avant le décollage pour réaliser une performance plus impressionnante encore que celle du Concorde, ce qui laissait la possibilité à l'avion de se mettre dans une assiette dans laquelle il ne pouvait pas voler, dans laquelle il n'avait pas assez de portance, et ce qui devait arriver arriva et l'avion se crasha. Le Tu-144S entra en service le 26 décembre 1975, transportant du courrier et du fret entre Moscou et Almaty, la capitale du Kazakhstan, en préparation d'une ouverture de la ligne trafic passager qui intervint en novembre 1977. Il y eut une courte période d'exploitation en vol régulier, mais le 23 mai 1978, le premier Tu-144 connut une panne en vol lors d'un vol de qualification et s'écrasa à Yegoryevsk, causant la mort d'un quart des membres de son équipage. En conséquence, le vol Aeroflot du 1er juin 1978 fut le 55e et dernier vol régulier. Un des problèmes de cet appareil était que les moteurs n'étaient pas assez puissants pour le faire voler à la vitesse supersonique sans la post-combustion, contrairement au Concorde qui pouvait le faire. La post-combustion, c'est l'ajout de carburant dans la flamme du moteur, ce qui fait grandement grandir la puissance du moteur et qui permet donc d'arriver à des vitesses supersoniques, mais cela a aussi pour effet de faire grandir la consommation. Et les réservoirs de carburant n'étant pas infinis, cela a pour effet direct de diminuer la portée qui n'était que de 3000 km. Pour comparaison, un Paris-New York fait près de 6000 km. En comptant les 55 vols passagers, il n'y eut que 102 vols réguliers, tous opérés par Aeroflot avant la fin définitive du service commercial en 1978. Aeroflot étant la compagnie d'aviation de l'État russe. Bien que les vols réguliers aient été arrêtés en 1978, on pense qu'Aeroflot a continué à utiliser ces modèles avec quelques vols occasionnels dans les années 80. Un rapport fait état d'un vol de Crimée à Kiev en 1987. De même, la production du Tu-144 ne s'est arrêtée qu'en 1984 et le Tu-144D numéro 77-116, partiellement assemblé, ne fut jamais terminé. Dans les années 80, les deux derniers modèles de production en état de vol ont été utilisés pour des essais, notamment pour la recherche sur la couche d'ozone, mais durant ces essais, ils ne furent jamais autorisés à dépasser Mach 1. Des essais qui se poursuivirent jusqu'en 1990, ces deux avions sont aujourd'hui conservé à l'usine Tupolev de Yukovsky. En 1990, Tupolev se met en relation avec la NASA et propose d'utiliser un de leurs modèles comme banc d'essai pour le programme High Speed Commercial Research, dont le but est de concevoir un avion de ligne supersonique de deuxième génération. En 1995, le Tu-144D numéro 77-114, assemblé en 1981, mais n'ayant que 82 heures et 40 minutes de vol au compteur, cet avion est sorti de son stockage. D'importantes modifications pour un montant de 350 millions de dollars ont lieu, incluant la remotorisation. Cette nouvelle version baptisée Tu-144LL, signifiant Letayushkoye Laboratoria, soit laboratoire volant en russe, il réalise 27 vols en 1996 et 1997. L'ensemble des vols se déroule près de l'usine Tupolev aux abords de Moscou, et bien que les essais furent concluants, en 1999 le projet est abandonné. En 2000, le musée automobile et technologique de Schinsheim racheta le numéro 77-112 qui se trouvait à Yukovsky. L'appareil a été démonté puis transporté par voie fluviale et terrestre jusqu'au musée. Il y est exposé avec un ancien Concorde d'Air France. La cellule du numéro 77-113 a été mise à la ferraille à l'usine Yukovsky en 2001 car l'entreposage extérieur pendant plus de 20 ans avait endommagé l'appareil et il était considéré comme dangereux. Le Tupolev 144 est un avion qui a été bâclé du fait des délais très courts imposés à Tupolev par l'URSS. Il avait de sérieux problèmes au niveau de la performance des moteurs et il était loin d'être confortable en plus de ne pas être sécuritaire. On raconte que les passagers devaient se passer des billets pour communiquer très loin de l'ambiance feutrée du Concorde. Et comme je vous l'avais dit, le but de cet avion était avant tout politique et il n'était pas rentable car en effet, une liaison en Tupolev coûtait à peine plus qu'une liaison avec un avion normal de ligne de la compagnie Aeroflot. Voilà, c'est la fin de cette histoire de cet avion qui aurait pu détrôner le Concorde s'il avait été construit avec un peu plus de rigueur. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ce podcast, à le commenter, à le partager, faire un tour sur notre site podcastquartdheure.wordpress.com et revenez la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Suivez-nous sur nos réseaux Instagram, TikTok et YouTube, podcast le quart d'heure LQDH. À la semaine prochaine.